Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.
Bonjour à vous, que vous nous rejoigniez hein, après une première journée de siècle. J'espère d'ailleurs que vous avez bien dormi parce qu'il y a pas mal de choses qui vous attendent aujourd'hui. Ça fait rire Sylvain, lui il a bien dormi. Bonjour Sylvain Lévy-Valency.
Comment ça va? Je suis ravi Johanna. Voilà, on est bien ici quand même. Hein.
Ah, on est très
au
bien.
Au bord de la mer.
Il était temps que vous veniez.
Voilà. Un bon MAPIC, voilà. On est ravi d'être ici. On est bien installé. On a été gâtés.
On est très bien.
On est sur l'espace Riviera, alors qu'avant on était dans le sous-sol, vous vous rappelez?
Voilà. Écoutez, on a toujours été très bien au MAPIC. Moi, j'aime beaucoup le MAPIC.
Ouais.
Alors, on va continuer.
Avec plaisir.
On va maintenant parler commerce de proximité avec notre prochain invité. Bonjour Philippe Mandonnet.
Bonjour à vous deux.
Vous êtes l'associé fondateur d'Elgam Conseil. Avant d'attaquer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les activités d'Elgam Conseil?
Bien volontiers. Elgam Conseil, que j'ai créé en 2012, est un cabinet de conseil qui vise à renforcer les liens, les synergies entre les acteurs du public et les acteurs du privé, à faire en sorte qu'ils se comprennent mieux, parce que quelquefois les élus parlent un discours et les enseignes, les entreprises parlent un autre discours, donc j'essaye d'être le traducteur et de mettre en synergie les projets des collectivités locales, d'élargir la concertation, parce que tout projet dans une collectivité a tendance à susciter des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, mais en général, on n'entend que les négatives. Donc je pense qu'il est très important, en amont des projets, de co-construire la réflexion, vraiment. Et puis, pour mes clients dans le privé, c'est mieux connaître les collectivités, mieux connaître les attentes, et donc d'avoir des actions qui soient en adéquation avec les attentes des élus.
Alors, rassurez-moi, on n'en est plus au moment où les collectivités veulent un joli centre-ville avec des commerces de proximité et les acteurs privés veulent des grands centres commerciaux en périphérie. C'est terminé.
C'est terminé, c'est-à-dire que c'est terminé des deux côtés. C'est-à-dire que les collectivités comprennent, et j'espère qu'elles vont le comprendre de plus en plus, et c'est vraiment un discours que je leur tiens, que l'opposition n'est pas entre le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie. Qu'ils doivent beaucoup plus réfléchir à renforcer l'attractivité de leur centre-ville et de leur périphérie face au e-commerce, face à la logistique, qui crée des emplois déportés, voire même dans d'autres pays. Et pour les clients privés, pour les enseignes, pour les promoteurs, ils ont compris que le modèle de l'hyper en périphérie, de l'hypercentre et l'hypercentre commercial est dépassé, mais qu'il a sa justification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un territoire, s'il y a zéro périphérie commerciale, s'il n'y a pas une masse critique, ce n'est plus une destination. Et par définition, toute ville, y compris ville moyenne, elle a un bassin de population qui dépasse son hypercentre, qui va sur sa périphérie plus ou moins grande, et donc il faut qu'il y ait une masse critique, sinon le commerce va dans des hyperpôles régionaux.
Et parce qu'il nous faut aussi des pôles dynamiques et attractifs.
Il faut un maillage de pôles de proximité. Moi, je crois beaucoup aux villes moyennes. Je le disais avant la crise, je le crois encore plus aujourd'hui. Et beaucoup de centres-villes ont d'ailleurs paradoxalement retrouvé une nouvelle jeunesse, j'allais dire, avec des habitants qui finalement, au lieu d'aller travailler loin, travailler de chez eux, et donc finalement retrouver le plaisir d'aller faire des courses de proximité. Et de revivre en centre-ville. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de maires aussi qui a compris cela, qui n'est pas dans le dogmatisme, mais qui a compris que le bon partenariat entre le public et le privé, c'est faire en sorte que les espaces publics du centre-ville soient attractifs, qu'on ne cède pas aux sirènes qu'on entend beaucoup du « tous en voiture », qui fait en sorte que vous n'allez jamais pouvoir acheter un pack d'eau en centre-ville si vous ne pouvez pas vous approcher. Donc même si vous voulez acheter deux packs d'eau, une mère de famille ou une personne âgée, au bout d'un moment, elle va vouloir pouvoir approcher des magasins de centre-ville.
C'est vrai qu'il y a une fonction éminemment sociale dans tout cela. C'est-à-dire que ce désir de se retrouver, de la rencontre, et on le voit bien avec le confinement, ce que ça a généré comme poids sur la solitude des personnes. Et c'est effectivement cette crise, elle a eu cette particularité de faire prendre conscience des manques, et que du coup les grands gagnants, si on devait dire, le mot est peut-être pas forcément approprié, mais les grands gagnants de la crise sanitaire, ça reste finalement les territoires moyens ou les territoires qui étaient un peu inégaux par rapport à d'autres. Il y a même des territoires où j'ai observé là, sur les deux dernières années, une croissance démographique alors qu'elle était plutôt atone il y a 2 ou 3 ans. Est-ce que le plan d'action Cœur de Ville, qui a été mis en place à l'époque, à l'origine par Jacques Mézard, repris ensuite par Julien de Normandie et après celle qui lui a succédé, Emmanuel Wargon, pour le logement, porte ses fruits aujourd'hui avec notamment l'action des élus locaux. Parce que tout à l'heure, il y a une chose qui ne m'a pas échappé, c'est que vous avez parlé de nouvelle génération de maires. J'aimerais bien que vous précisiez cela. Est-ce que ça veut dire qu'on a une génération d'hommes politiques qui finalement dit public-privé, c'est un partenariat de toute façon nécessaire, qui converge vers un seul et unique but, satisfaire les administrés et maîtriser nos usages et aller aussi vers une décarbonation, vers un environnement plus sain, plus apaisé. Est-ce que c'est ça que ça veut dire,
alors,
Philippe ?
Oui. Il y a plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Premièrement, les effets, oui, il y a eu des effets. On a eu une petite crainte au départ que le label Action Cœur de Ville puisse être un peu répulsif, parce que ça stigmatisant, en disant attention, si cette ville là
genre c'est la ville pauvre, il y a 200 mètres de ville, c'est 200 mètres de ville pauvre,
et donc les développeurs d'enseignes qui disent oh là là, pas le label qui bon, ça c'est pas fait finalement, ça a été une crainte.
Ils l'ont plutôt bien fait
pour une raison importante, c'est que pour la première fois le dispositif gouvernemental permettait d'agir simultanément sur l'aménagement public, sur le logement, sur l'emploi et sur les services. Or, une des raisons, j'allais dire mathématiques, de la décommercialisation à un moment du centre-ville, c'est qu'il n'y avait plus de logement en centre-ville. C'est-à-dire que vous aviez des centres-villes où vous aviez la boutique, le logement qui va avec la boutique au-dessus qui se vidait, et puis plus rien au-dessus. Si vous avez un centre-ville historique, fût-il magnifique, mais que vous n'avez plus de logement, vous n'avez plus de zone de chalandise.
C'est clair.
Et donc, là où il y a eu une génération, c'est là où je dis, il y a eu une génération d'élus, il faut le dire, non pas ceux qui ont autorisé les centres commerciaux, mais ceux qui ont autorisé les permis de construire de logements et l'étalement urbain en immédiate périphérie. Quand vous avez du logement en périphérie, des lotissements, sans absolument impacter sur le prix du foncier, ni autre, sans impacter le coût supplémentaire en matière de transport en commun, parce qu'après il faut bien emmener ses enfants à l'école et que l'école est restée en centre-ville, il faut élargir le circuit de collecte des déchets, il faut éclairer plus de routes. Donc vous avez en fait préféré nier les dépenses supplémentaires impactées par le développement de l'étalement urbain au lieu de consacrer cet argent public à renforcer et à réhabiliter le centre-ville. Ce programme gouvernemental a eu au moins le mérite de rapatrier en cœur de ville les moyens publics qui s'étaient un peu éparpillés. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Il faut agir sur le logement, il faut agir sur l'ensemble des facteurs pour pouvoir avoir un centre-ville dynamique. C'est ce que Mulhouse a fait depuis des années, c'est ce que Pau fait en ce moment avec succès, c'est-à-dire une vraie politique de centre-ville, des moyens concentrés, mais pas uniquement sur le commerce, sur le logement, sur le stationnement, sur l'animation. Et à ce moment-là, vous avez un centre-ville qui devient dynamique.
Donc le commerce au cœur de la vie des villes, mais finalement pas seul.
Pas seul. Et vous avez des exemples de collaboration ou de comités d'enseigne entre la périphérie et le centre-ville. Encore une fois, je le dis et le redis, l'attention doit être portée au commerce physique, qu'il soit en centre-ville ou en immédiate périphérie, car demain, vous aurez... Et c'est jamais mesuré, et c'est la même chose, on est en train de refaire la même erreur qu'on a fait avec l'étalement urbain, le coût environnemental des livraisons, le coût de ces achats où on vous dit retour gratuit, mais le retour gratuit, c'est quand même un camion qui réexpédie ce que vous n'avez pas consommé. Alors que si vous venez en centre-ville, que vous essayez, je parle pour le textile, si vous essayez, au moins vous repartez avec ce qui vous va. Vous ne faites pas comme ce que font certains ou certaines, de se dire je commande 10 paires de chaussures et de toute façon j'en renverrai 8.
Mais on ne peut pas gérer aujourd'hui le commerce physique sans prendre en compte l'existence et le succès du e-commerce.
Mais le succès du e-commerce, il s'est aussi fait sur, il faut le reconnaître, des manquements des commerçants de centre-ville à un moment.
Ah, c'est sûr.
Qui étaient fermés à l'heure du déjeuner.
Oui, certains.
Qui ne s'adaptaient
pas. Qui manquaient de stock.
Fermés à midi, j'ouvre à 4 heures.
Le mercredi, je suis fermé parce que c'est le jour des enfants. Et d'ailleurs, pour avoir été directeur de cabinet dans certaines villes, les mêmes qui me reprochaient ça, je les retrouvais dans le centre commercial de périphérie faire leurs courses à l'heure où, après vous avoir expliqué qu'il n'y en avait que pour le centre-ville.
Non, mais... Le débat qui... Est-ce qu'on est... On n'est plus dans le débat d'opposition, on est d'accord ? Centre-ville,
commerce... Vous en avez encore.
Centre commercial.
Vous en avez encore, mais de la même façon que vous avez... Je pense qu'il y a une chose que les gens ont oubliée. Sans remonter très loin, quand ça marchait, il y avait la rue des Bouchers.
Ah oui.
La rue des Bouchers, vous aviez plusieurs bouchers.
Non, c'est vrai.
Eh bien... Les restaurants, quand vous avez des rues avec plusieurs restaurants, ça marche. Quand vous avez un hôtel ou un restaurant, ça marche pas. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, vous avez encore des gens qui, lorsque la ville a un projet de deuxième hôtel ou de... Ah là, la concurrence. Je veux dire, le commerce, c'est une affaire de concurrence, et la concurrence est saine. Donc je pense que...
Mais moi, je suis 100% d'accord.
Elle est saine
sacré.
Et elle
moi, je l'ai vu à Lyon, ça a fait un carton. Vous connaissez la rue Mercière à Lyon?
Oui.
La rue Mercière, c'est... Moi, j'ai connu, là, parce que je suis lyonnais d'origine, j'ai connu le développement de la rue Mercière, c'est incroyable. C'est une rue dans laquelle il y avait 3-4 restos, et de plus en plus de restos.
Mais parce qu'on y va pour avoir le choix, et finalement, on y va pour trouver ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est-à-dire du choix.
Mais Johanna, c'est notre rue Montorgueil, regardez.
C'est
exactement.
Je veux dire... On est rue Réaumur à Paris, et quand on va déjeuner, on va souvent dans la rue Montorgueil, c'est exceptionnel.
Mais... Ça a été très galvaudé, mais l'expérience client, ça reste quand même quelque chose d'important. Et l'expérience client, elle commence par le sourire qui vous accueille dans une boutique.
Bien sûr.
Bon. Et à partir de là, la concurrence du e-commerce, elle existe, mais de plus en plus de commerces, y compris de centre-ville, ont su en faire des atouts. C'est-à-dire, ont su comprendre aussi que, voilà, il y a ce qu'il fallait faire de qualité d'accueil, de conseil, de complémentarité sans doute avec le e-commerce. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais du commerce.
C'est ce que disait Charlotte Journeau, qui était avec nous, là, de la société Wishimam, qui dit un commerce rentable, c'est un commerce hybride, physique et digital.
Et je pense qu'on peut même aller un peu plus loin, puisqu'hier, je recevais Emmanuel Leroc, qui est donc le délégué général de Procos, qui représente les enseignes, et qui disait qu'aujourd'hui, finalement, le rôle du commerce physique est d'apporter autre chose que le e-commerce.
Oui, absolument. Encore une fois, c'est d'apporter un conseil, c'est d'apporter un produit adapté, voire personnalisé, et c'est aussi s'adapter en permanence aux attentes du client et de la saisonnalité. Regardez, on parle de circuits courts. On est d'ailleurs, c'est intéressant, hein, on est en train de passer de la mode du tout bio à la mode du circuit court. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que... Est-ce que c'était logique d'acheter du bio sur Internet ? Je schématise un peu. Et d'acheter du bio qui arrivait d'Amérique du Sud, parce qu'on était totalement hors saison, plutôt que d'aller acheter ce qui est produit à côté de chez soi. Eh bien, je pense que ce recentrage vers la proximité, qu'on constate dans l'alimentaire, on le vit aussi dans le commerce. Et je suis assez frappé de voir les nouveaux concepts de reuse, de reconditionnement qui montre bien qu'il y a une prise de conscience que les ressources ne sont pas inépuisables, qu'il faut se reconcentrer sur l'essentiel et ce recentrage il est aussi physique, c'est-à-dire qu'on aime consommer autour de chez soi, on finit par aimer savoir où est produit ce qu'on achète et donc la proximité elle est non seulement dans le commerce en tant que lieu de commerce, mais aussi dans ce qu'il apporte. Et je voudrais juste rajouter un point important. Je pense que là où les élus ont un rôle, la prochaine étape, ils doivent trouver, et les promoteurs doivent les accompagner, ils doivent retrouver le moyen de produire en ville et de réparer en ville. C'est-à-dire que le commerce, c'était aussi de la réparation. Aujourd'hui, honnêtement, qui va davantage chez le cordonnier de centre-ville que dans le cordonnier d'entrée de galeries commerçantes.
C'est comme les commerces de... ce type de commerce qui est quasiment... consubstantielle de ce qu'il y a dans les gares, par exemple. Dans les gares, toujours un serrurier qui fait de les clés avec un. C'est intéressant parce que tout ça, c'est dans le parcours. Hein. Je vais travailler, je prends ma paire de chaussures, je la dépose, je reviens, hop, je la reprends. En fait, c'est pratique.
Dans le parcours et les horaires.
Dans le parcours et les horaires. C'est-à-dire qu'en fait, le commerce, c'est soit c'est pratique, soit c'est magique.
Voilà.
Alors, si c'est pratique, c'est instantané. Je sais, hop, c'est pratique, je vais à mon bureau, tac, j'ai pas de perte de temps. Soit c'est magique et je vais une expérience différente. Mais dans les deux cas, il y a un dénominateur commun, c'est qu'il n'y a pas d'opposition avec la numérisation, avec la digitalisation, qui permet d'optimiser finalement et d'analyser un petit peu les flux. On disait tout à l'heure aussi sur l'émission précédente, c'était Didier Gasté, le patron de Spécial, qui dit que on arrive à la fois l'intelligence artificielle, mais aussi la compilation des masses de données absolument phénoménale, parce que une chose qu'on pourrait ajouter sur les territoires, justement les villes moyennes, c'est qu'ils disposent d'une donnée extraordinaire. Quand je vois ce qu'a fait, par exemple...
Ils ne valorisent pas encore, mais ça va bien.
Absolument, mais regardez ce qu'a fait François Rebsamen à Dijon, ouais. Avec On Dijon, qui a d'ailleurs été lancé au Palais des Festivals de Cannes, au MIPIM d'ailleurs, il y a 3 ans, presque 4 ans maintenant. C'est extraordinaire, c'est la façon d'exploiter des données des administrés pour optimiser finalement à la fois leur parcours, leur niveau de consommation. Parce que vous avez dit une chose tout à l'heure qui est très juste, c'est qu'un commerce de centre-ville dans lequel il n'y a pas de politique de logement, dans lequel il n'y a pas de politique de mobilité, dans lequel il n'y a pas de parking, parce que ça aussi, ça a été un problème. À un moment donné, on est passé sur des centres-villes piétons, tout piétons, avec des parkings qui étaient aux alentours. Ben les gens, en fait, n'y venaient pas, c'était trop long, c'était pas pratique.
Ben pour vous répondre sur deux points là-dessus, je citais l'exemple de la ville de Pau. La ville de Pau a travaillé avec MyTraffic, par exemple. Ils sont aujourd'hui 3e centre-ville les plus attractifs dans leur catégorie. Ça devient un argument d'attractivité, évidemment, pour les enseignes. Et ils ont également travaillé le stationnement. J'ai fait une grosse étude pour la ville d'Angers sur le plateau piétonnier. Eh bien, on s'est rendu compte que, d'abord, on dit plateau piétonnier, mais il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de rentrer en véhicule dans un plateau piétonnier. Et puis des véhicules de type triporteur, vélo, etc. Donc la notion de piétonnier, elle est à revoir.
Vélo, trottinette.
Et du coup...
Un peu galère, d'ailleurs.
La logistique urbaine doit s'adapter aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, je suis désolé, un artisan qui a une baignoire à poser, même dans le plateau piétonnier, il faudra qu'il arrive avec son véhicule. Les secours, c'est pareil. Les services aux personnes, des collectivités, c'est pareil. Donc il faut arrêter d'être dans la même opposition, j'allais dire, piétonnier, pas piétonnier. Le piétonnier, ça devient aussi un espace hybride sur lequel il faut mieux régir les circulations. Et quand on travaille avec l'ensemble des catégories de commerçants, ils le comprennent. Ils comprennent, et je vous cacherai pas que j'ai vu présenter au MIPIM, je crois que c'est au MIPIM, le projet de piétonnisation des Champs-Élysées. je m'inquiète un peu parce que ça relève plus de la piste d'aéroport avec des arbres de chaque côté que d'un centre-ville. Et les riverains et les commerces riverains, je ne suis pas sûr qu'ils vont s'en sortir. Il y a des endroits où on ne peut plus vous chercher en taxi. C'est super compliqué. Quoi.
Non, mais vous avez non seulement raison, mais de toute façon, moi je pense que ce projet, il ne verra pas le jour. Enfin, en tout cas, il faut le souhaiter. Il n'y a qu'à voir ce qui vient de se passer rue de Rivoli. Vous savez que la rue de Rivoli est en train de se réouvrir aux véhicules. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les véhicules recommencent à circuler rue de Rivoli parce qu'effectivement, la rue de Rivoli, c'est l'axe qui permet, en fait, à partir du Faubourg Saint-Antoine, d'arriver sur ce que l'axe Concorde, qui est comme deux axes stratégiques sur Paris. Et ça commence à s'ouvrir. Et je me suis même demandé pourquoi, à un moment donné, il n'y avait pas eu plus de mouvement là-dessus. Là où vous avez raison, Philippe, c'est qu'il y a une... Je ne vais pas dire un antidogmatisme, mais il y a plus de réalité politique à l'échelle du territoire qui fait qu'aujourd'hui, on a une génération quand même d'élus qui est beaucoup plus proactive. Est-ce que ça, on peut le dire quand même ?
Bien sûr.
Non, parce que c'est vrai qu'on a stigmatisé les maires. Mais je prends un autre exemple. Hein, Bon, même si le maire qui l'a fait a été battu et que maintenant, c'est François Grosdidier, le maire de Metz, qui a pris le relais, etc., qui est d'ailleurs un maire de bonne qualité. Vous savez, quand vous arrivez à l'Arsenal... le plateau, il y avait à l'époque la grande place, il y avait un parking à ciel ouvert, vous vous rappelez ? Ils l'ont mis en sous-sol, mais au même endroit. Génial. Donc il y a une très jolie place, sauf que le sous-sol, au lieu d'être devant, c'est vous savez, pas beau, un peu comme la place du Louvre à l'époque où il y avait les parkings, vous savez, devant le ministère des Finances, c'est un truc absolument incroyable, et ben, ils l'ont mis en sous-sol. Donc en fait, il y a le même nombre de places, sauf que eh ben, je ne vis pas les choses de la même façon. Et quand on se sort de ce parking, là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, eh ben, j'arrive dans le centre-ville, dans lequel il y a un centre piétonnier. C'est très facile d'y avoir accès. Et du coup, on voit bien la compromission des deux.
Mais
on pourrait faire ça dans
Vous avez une nouvelle réflexion sur les parkings qui est indispensable. Et qui doit être menée avec des acteurs qui est d'ailleurs un peu, les réflexions sont en cours. Moi, j'ai travaillé avec Interparking, par exemple. Interparking réfléchit à la meilleure lisibilité du parcours jusqu'au parking. Et la nouvelle technologie dont vous parlez va bientôt permettre de dire il y a des places à tel endroit, il y a plutôt des places à tel endroit, et donc de limiter les déplacements inutiles, jusque et y compris pour les places en surface. On n'est pas loin d'avoir des solutions technologiques sans rouvrir les trottoirs, d'ailleurs, en utilisant les mâts d'éclairage public, voire les rebords des immeubles, qui vont permettre demain de détecter si, dans une rue, il y a des emplacements libres ou pas.
Ah, super.
Et ça, c'est des vrais projets. Ouais. Donc, moi,
un mobilier urbain connecté, un espace connecté.
Je ne suis pas du tout un ennemi des nouvelles technologies, vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Mais les nouvelles technologies, au service de cette attractivité du centre-ville, pour, comme vous le disiez, faciliter l'accessibilité. Aujourd'hui, un centre-ville, il doit être super accessible, avec un circuit ou un ensemble de stationnements qui soit lisible, qui soit propre. Et je pense même que les parkings sont appelés à jouer, dans les années à venir, un rôle complémentaire de base logistique, de consigne, voire, pour aller sur les commerces de bouche que j'apprécie, il y a des exemples à Toulouse, par exemple, de consignes réfrigérées, de façon que vous puissiez stocker de l'achat de produits de frais
dans
le parking, où vous travaillez pendant la journée.
Et pas même qu'il y a Amazon qui lorgne sur certains espaces. Voilà.
Mais vous parliez de l'accessibilité et de Metz. Il y a un autre exemple, qui est là un exemple très compliqué politiquement, c'est l'exemple du tramway. Vous avez en général beaucoup de maires qui développent le tramway, qui prennent des risques politiques. Quelquefois, ils sont battus sur la première ligne de tramway parce que c'est compliqué de faire des travaux.
Ça n'a pas été le cas à Dijon. Hein,
non, mais
réélu.
Ensuite, vous apercevez que le loyer des commerces ou des habitations reprend de la valeur parce qu'aujourd'hui, vous avez un mode de déplacement propre.
C'est génial.
Mais il faut du temps.
Mais oui.
Et le tramway a une...
Il faut 10 ans.
Voilà.
Il faut 10 ans et ça peut coûter 2 mandats. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Ça coûte un mandat. Alors, c'est vrai que l'exemple de François Rebsamed est unique hein, en tant que tel, parce que lui, il a carrément tout construit. Hein. Qu'est-ce que c'était moche, Dijon, quand on arrivait à la gare. Et moi, j'ai découvert. Et Metz qui s'est littéralement transformé. Bon, malgré tout, on voit bien quand même qu'il faut très développer l'attractivité, parce qu'il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé suffisamment, mais qu'il faut le dire, il faut relocaliser une activité économique pour que des gens viennent vivre en centre-ville, dépensent en centre-ville et travaillent dans la ville.
Absolument.
Et travaillent surtout dans des villes moyennes, parce que qu'est-ce qui fait qu'on se concentre tous sur Paris, c'est qu'il y a du taf qu'à Paris et qu'il faut aller travailler.
Parlez pour vous. Je vis en Normandie, je suis très élu, très content de vivre en Normandie.
Non, mais de toute façon, nous avons un projet avec Johanna, c'est d'essayer d'avoir un haras pas loin. Mais c'est vrai.
Il y a des footballeurs qui viennent en acheter un côté de Pont-de-Bec.
Oui, vous n'avez pas les mêmes moyens,
Jeanne-Azile
Blanche. Et pourtant, elle est quand même championne de France.
Nous partageons cette passion pour l'équitation.
Exceptionnelle.
Et je travaille aussi, je conseille un certain nombre de villes dans le développement de leur filière.
Ça serait justement intéressant qu'on considère, par exemple, la discipline de Johanna comme la discipline du foot. Parce que les rapports ne sont pas les mêmes quand même, hein, quand on y réfléchit. Hein. C'est intéressant d'ailleurs quand on y réfléchit. Moi, je trouve que les élus locaux devraient justement, lorsqu'ils ont la possibilité d'avoir des sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau dans leur ville, d'essayer de les aider un peu plus. Voilà.
Mais je suis d'accord, mais on en a parlé, ça donnera peut-être l'occasion de revenir en parler, mais l'équitation en France n'est pas considérée comme les autres sports, alors que c'est la troisième fédération et la plus féminine.
Absolument.
C'est-à-dire qu'il y a plein d'équipements structurants. Moi, je travaille sur des reconversions ou sur du développement autour des hippodromes, qui sont des lieux non délocalisables. On parlait du Pays d'Auge, ce sont des filières non délocalisables.
Ah oui, j'adore ce
Les point. Centres équestres sont des centres qui, contrairement à tous les autres équipements sportifs, parce qu'il y a du vivant dedans, sont obligés de vivre 365 jours par an, et pourtant, mettez un enfant devant un poney et il est émerveillé.
C'est vrai, hein.
Sans question d'argent. mettez devant un joueur de foot, il pense au fric que gagne le joueur de foot. Bon, ben, je préfère le regard émerveillé du gamin devant le poney, que je citerai pas de nom, que un ballon d'or, ça dit bien son nom, quoi. Voilà.
C'est bon quand même, hein.
Faut dire. Dit.
Là, tout est dit. Non, mais puis il y a la beauté du geste, etc. D'ailleurs, non, mais c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit finalement que la nouvelle donne, entre guillemets, est une donnée, pluridisciplinaire, multimodale, multipolaire, avec une vision globale de l'administré, une vision globale du citoyen, où on a des élus qui doivent intégrer la notion de la proximité logement-emploi, par exemple, ensuite culture, ensuite loisirs, parce que on vit bien, si on a de l'espace, on vit bien, voilà, Johanna, elle est sportive, donc forcément, il lui faut de l'espace, c'est sa dimension. Il y en a d'autres, ça peut être autre chose. Mais il faut trouver ces nouvelles fonctions et dans un contexte qui est un contexte à la fois sanitaire compliqué, mais aussi un contexte dans lequel il va falloir quand même sacrement décarboner, parce que je peux vous dire que le réchauffement climatique, c'est pas un vœu pieux. Hein,
c'est pour ça que le commerce de proximité est un vrai commerce décarboné.
Oui, bien sûr.
Il est vertueux, pour autant que voilà, il soit travaillé avec les élus.
Et ça vous ennuie pas tous ces vélos cargo, où on se dit on va suppléer à la voiture avec des vélos, on va mettre les mômes dedans, etc. Comment on fait pour faire des courses quand on a trois gosses en bas âge, qu'on n'a pas de voiture, à part se faire livrer? Comment on fait?
Alors,
c'est quoi le...
Non, mais il y a deux choses.
Moi, je suis. Alors, peut-être que c'est ma génération, peut-être que je suis cuit pour ça, mais je me dis, quand j'entends des jeunes trentenaires me dire on va tout résoudre avec le tout vélo, je mets le môme, je mets tout le monde, etc., je me dis que c'est un peu court.
Mais il y a deux choses. D'abord, il y a deux réflexions. Premièrement, ce qui est absolument. Il faut avoir conscience, quand vous parlez de parents, c'est que le trajet domicile-école conditionne le reste du déplacement. Personne ne va en vélo à l'école pour ensuite reprendre sa voiture. Personne ne va en voiture à l'école pour reprendre son vélo après.
C'est juste.
Ce qui veut dire que là où les villes, où les élus doivent avoir des réflexions, c'est le cheminement aux abords des écoles, la sécurité, y compris du cheminement piéton. Ça, c'est très important. Parce que ça conditionne le reste des déplacements. Ensuite, sur le deuxième point, c'est que j'ai beau aussi faire partie d'une génération peut-être un peu plus ancienne, je pense que la notion de propriété de voiture est en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de passer de la propriété à l'usage. Et il est vraisemblable que d'ici quelques années, on louera la voiture.
Mais c'est déjà le cas, non?
Oui, non, mais dans les grandes villes, oui.
Oui,
mais n'ayez pas une vision parisienne, je veux dire. En Normandie, sans voiture, vous êtes extrêmement limité.
Mais c'est le cas de plein de territoires.
Justement,
Philippe, pardonnez-moi, mais ces territoires de taille moyenne, ces territoires non raccordés, qui ne se raccorderont pas forcément, devront forcément posséder un véhicule.
Il y a de l'autopartage au quotidien qui s'améliore, y compris en zone rurale. Enfin, je veux dire, oui. Qui dit zone rurale dit aussi progrès. Il y a des notions d'autopartage du quotidien qui se sont développées, mais je pense que la voiture reste. Faut pas céder aux ayatollahs, quoi. Je veux dire, la voiture reste un bien, un service justement,
un service
utile, sécurisé.
Qu'on peut avoir avec une borne de recharge dans un village, parce que dans une villa, je vais vous donner un scoop, les amis, dans un village, il y a de l'électricité. Voilà. Ouais. Non, mais parce que j'en ai entendu des trucs pas possibles. Hein.
Oui, enfin, ceci dit, je vais vous dire, pour faire mon vieux rétrograde, je suis pas encore convaincu que les batteries, les métaux rares, la surconsommation électrique que ça consomme, soit la panacée pour résoudre le développement, pour s'inscrire dans une démarche de développement durable. Je pense que là comme ailleurs, il vaut mieux être sur une économie de trajet, c'est-à-dire moins d'embouteillage. Il vaut mieux moins d'embouteillage avec une voiture diesel. Avec une surproduction de batteries dont on n'a toujours pas su exactement comment on allait les recycler.
Je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi d'autres alternatives qui sont par exemple les moteurs à hydrogène, l'hydrogène qui est qui est encore sous-exploité.
La Normandie est extrêmement leader en matière d'hydrogène. Bah, l'axe Seine est, voilà. Et on pense qu'on va aller très vite vers le transport en commun, transport lourd en hydrogène, c'est-à-dire soit les véhicules refités, notamment métropole de Rouen, du Havre, les bus et de Caen, le refitage des transports.
Moi, je pense que c'est une super industrie. Puisque vous êtes en Normandie, il y a la méthanisation qui permet. Alors, la méthanisation, avec tout ce qu'on peut dire autour, mais enfin, le principe de méthanisation, pour certains agriculteurs, c'est aussi des ressources qui leur permettent d'utiliser et aussi de rester sur place. Mais il n'y a pas d'école.
Sur la méthanisation, c'est vice-président de la région, Hubert de Jean de la Bâtie, qui a une formule excellente. Il consiste à dire la méthanisation pour absorber les déchets, notamment de l'agriculture, mais il ne faut pas se mettre à produire de l'agriculture pour aller vers la méthanisation.
Je suis 100% d'accord avec
vous. C'est-à-dire que oui, c'est une solution idéale, équilibrée, intéressante, mais on ne doit pas commencer à produire des aliments uniquement à des fins de méthanisation.
Ouais, c'est clair, tout à fait clair.
Merci Philippe Mandonnet pour toutes ces explications, tous
toujours
ces sujets.
Plaisir, hein.
On est sorti du commerce, c'était très bien.
C'est une encyclopédie. Il faut revenir souvent, Philippe.
Je rappelle que vous êtes l'associé fondateur d'Elgam Conseil. Merci à vous.
Merci à vous deux.
Le MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial. Du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator sur Radio Immo.